Gérard Hamel, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel, dans le cadre de cette émission L'écho de ma commune, qui est aidée, j'aime mieux ça que sponsorisée, par le Conseil Général d'Eure-et-Loire. Et je pense que nous allons faire un tour complet de la situation à Dreux, dont tu es le maire, depuis 20 ans, je me suis laissé dire.
Depuis 1995, un petit peu plus de 20 ans, en effet.
Ah oui, quand même.
Ouais,
et c'est
ça
pas,
passe.
Et c'est pas terminé.
Mais non, puisque je suis élu jusqu'en 2020, voilà. J'aurais été, dit-on, mais souvent on me le dit, après Maurice Violette, le maire qui aura duré le plus longtemps.
Mais Maurice
j'aurais
Violette...
J'aurais fait 25 ans au bout, mais je n'arriverai pas encore.
C'est pas encore terminé, Maurice Violette est resté maire 50 ans, c'est pas ça?
Oui, mais en plusieurs épisodes, mais il est resté maire, oui, une cinquantaine d'années.
Et en plus,
voilà.
Il
mais
était
moi,
ministre.
J'aurais fait 25 ans. Ouais, j'aurais fait 25 ans en 2020, ce qui sera déjà pas mal, et j'envisagerai peut-être d'autres choses à partir de là.
Tu n'es pas usé par le pouvoir?
Non, mais après 4 mandats, je pense qu'il est temps, c'est pas un secret, puisque je le dis à qui veut bien l'entendre, je ne me représenterai pas, bien sûr, en 2020.
Ah bon?
Ben, chaque année, je prends un an, c'est exceptionnel, mais et j'aurai 75 ans en 2020. Je pense qu'il sera temps que je me consacre un petit peu plus, je ne veux pas dire égoïstement, à moi et à ma petite famille.
Oui, c'est sûr que ta famille sera très heureuse de te récupérer.
Voilà. Et profiter un petit peu de la vie à partir de cet âge-là, je pense que...
Non, mais ne me dis pas que d'être mère t'a empêché de profiter de la vie.
Mais évidemment, c'est une passion.
Oui. Et une passion prenante.
C'est une passion, mais c'est un peu une passion égoïste, puisque je me satisfais, moi, d'abord, à exercer les fonctions que j'exerce. Mais évidemment, ça se fait au détriment d'autres choses, et notamment de ma famille.
Enfin, passion égoïste, si on veut, parce que tu dois satisfaire normalement aussi tes administrés, puisqu'ils revotent pour toi.
Oui, ben j'espère. En tous les cas, je travaille beaucoup avec une équipe municipale qui est très motivée. Et effectivement, on me dit que, et je veux bien le croire, que la ville a beaucoup changé ces 20 dernières années. Je pense que c'était nécessaire de faire tout ce qu'on a fait pour l'attractivité de notre ville, pour lui redonner à l'extérieur une autre image. On y a travaillé et bien entendu, on continue à le faire. Tout n'est pas fini, loin s'en faut. On a la chance d'être une belle ville, à proximité de la région parisienne. Nous sommes à bien des égards très attractifs pour accueillir des gens qui veulent venir trouver ici dans des conditions financières acceptables, et qui viennent ici vivre une certaine qualité de vie.
Tu veux dire que de toute façon à Dreux, la vie est moins chère qu'à Paris, c'est clair?
Bon, c'est sûr, à Paris ou la région parisienne. On a dans les programmes immobiliers que nous faisons, on a 40% de la vente de ces programmes qui se fait avec des gens qui habitent l'Île-de-France ou Paris, qui choisissent de venir habiter ici pour des questions financières mais aussi de qualité de vie, et qui font en contrepartie le voyage pour aller travailler tous les jours.
Sans pour ça que la ville se transforme en cité dortoir.
Non, 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 parce que ce n'est surtout pas une cité dortoir, puisque les gens choisissent d'habiter, on a les enfants à l'école, et puis dès que ces couples qui viennent vivre ici, dès qu'ils ont une opportunité pour l'un ou pour l'autre de trouver un emploi, ils s'installent définitivement.
L'emploi, justement, on va en parler. Tu en es où de tes réalisations, de tes espoirs?
Écoutez, l'emploi reste le sujet numéro un, pas seulement à Dreux, mais sur toute la France. Bon, moi je suis responsable de Dreux, via l'agglomération dont c'est la compétence. Nous travaillons énormément à avoir tous les atouts qui permettent aux entreprises de pouvoir se développer, s'épanouir, se développer et de pouvoir en accueillir de nouvelles. Ça nécessite, nos territoires sont en concurrence. Un industriel qui veut s'installer aujourd'hui, il a le choix, à moins d'une heure de Paris.
Et qu'est-ce qui est déterminant pour lui dans ce choix ?
Tout. Le cadre de vie. Hein, dans le temps, on disait un industriel qui s'installe, les premiers atouts qu'il pouvait pour choisir un territoire, c'était les infrastructures routières. Ça reste un des éléments, mais ça n'est qu'un élément. Il y a aussi les éléments fiscaux, de fiscalité. Nous sommes très attractifs par rapport à l'Île-de-France. Et puis, il y a le cadre de vie. Un industriel aujourd'hui nous pose la question sur, dans tous les domaines, quels sont nos équipements en matière commerciale, quels sont nos équipements scolaires, quels sont les loisirs que l'on peut offrir, les équipements sportifs, le réseau associatif. Toutes ces questions-là nous sont posées avant qu'un industriel prenne sa décision. Et donc, comme je le disais, nous sommes en concurrence. Hein, on a dénombré, à moins d'une heure de Paris, 11 agglomérations de la taille à peu près de la nôtre. Et en général, les industriels interrogent ces différentes agglomérations avant de prendre une position. Alors, il s'agit pour nous d'être les meilleurs en tout point, hein, à tout point de vue. Et donc, c'est ce à quoi on s'emploie. À la fois en n'augmentant pas la fiscalité, ça fait 20 ans que je suis maire, on vient de le rappeler, mais les taux de fiscalité n'ont pas changé depuis 20 ans, et j'espère...
À Dreux,
et je fais en sorte, à l'agglomération aussi, depuis qu'elle existe, et je fais en sorte de faire avec la fiscalité que l'on reçoit, et là, comme l'État a diminué ses dotations... Eh bien, j'ai fait des prospectives avec les services qui me permettent de dire que si toute chose égale à aujourd'hui, hein, et si demain on ne nous en remet pas encore dans les suppressions de dotations, je crois pouvoir, c'est sûr même, j'atteindrai 2020 sans augmenter les impôts. C'est-à-dire que j'aurai fait 4 mandats sans augmenter les impôts. On fait avec ce que l'on a. On dépense, chaque euro dépensé est compté, notamment en matière de fonctionnement, de façon à nous laisser des capacités d'investissement nécessaires pour qu'une ville puisse progresser. Une ville qui ne peut plus, qui n'a plus la possibilité d'investir, c'est une ville qui sera de moins en moins attractive et qui ne sera pas choisie par les entreprises ou les industriels qui voudraient s'y installer.
Détroit aux États-Unis. Une ville en faillite.
Oui, je ne veux surtout pas être ça. Et on maîtrise aussi l'endettement. Il ne s'agit pas pour moi d'investir à tour de bras en endettant la ville et en hypothéquant ses possibilités dans l'avenir. Aujourd'hui, je me glorifie de dire que... Et c'est une... j'y pense en permanence. Jean Yo m'a laissé une situation financière extraordinairement bonne. C'est un expert dans le domaine des finances. Je me glorifie aujourd'hui avec mon équipe d'avoir fait tout ce qu'on a fait et tout en préservant cette bonne santé financière que nous continuons d'avoir. Les impôts n'ont pas bougé, je viens de le dire. L'endettement n'a pas augmenté. Nous avons fait tout ça en maîtrisant les choses. C'est pas facile tous les jours. Ça veut dire qu'il faut être rigoureux dans les coûts de fonctionnement. Le citoyen est en même temps de plus en plus exigeant sur les services rendus, la qualité des services rendus. Et donc, il faut pouvoir bien doser et bien rendre tout ça bien cohérent dans des budgets forcément contraints. C'est pas facile tous les jours, mais la preuve qu'on peut y arriver.
L'État a rajouté des charges sur les communes, sur les mairies. Est-ce que, en contrepartie, il est exact qu'il a enlevé certaines contraintes budgétaires qui étaient jusqu'à présent dévolues aux communes ?
Oui, on a eu, une double action de l'État. Je viens de dire ce qui est notre credo pour maîtriser financièrement, continuer à faire, tout en maîtrisant le niveau d'impôt pratiqué. L'État fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faut avoir un peu de courage politique pour pouvoir maîtriser les dépenses. Le toujours plus, il faut savoir dire non à un moment donné.
C'est forcément impopulaire, peut-être.
Et c'est forcément impopulaire. Alors, non seulement l'État, aujourd'hui, se décharge, en imposant aux collectivités. On entend parler actuellement de l'asphyxie des départements avec le RSA. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les communes, on nous a collé tout ce qui est du périscolaire avec la remise en cause des rythmes scolaires. On a dit, débrouillez-vous avec, ça a un coût. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on nous a diminué nos dotations. Il faut savoir quand même qu'une ville comme Dreux va perdre, sur les 4 ans qui étaient prévus, on va perdre 4,5 millions d'euros de dotation. Ces 4,5 millions d'euros, il faut que je les retrouve dans des économies. Or, nous gérons d'une manière rigoureuse depuis 20 ans, et on sait bien que les économies sont de plus en plus difficiles à trouver avec le temps. Et donc aujourd'hui, c'est un vrai exercice d'équilibriste qu'il faut faire pour faire face aux dépenses nouvelles que nous impose l'État et faire face à la diminution des dotations. C'est extrêmement difficile, avec une obsession dans notre tête, ne pas augmenter les impôts. Les Français ne peuvent plus. Et en plus, je pense qu'il ne serait pas ni de bon goût ni de bon argument que en augmentant les impôts, c'est la facilité, et en disant aux citoyens, vous savez, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'État. Le citoyen, lui, il ne retient qu'une chose, c'est que cet impôt est toujours tiré dans la même poche et que globalement, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc moi, je pense que la meilleure solution, c'est à nous, dans l'exercice de nos responsabilités, de trouver les moyens qui nous permettent, avec l'agglomération notamment, en mutualisant des services. Il faut qu'on phosphore tous les jours des idées nouvelles, qu'on mette sur la table des idées nouvelles qui permettent de réduire le coût des services sans en faire plus. Moi, je dis quand même aux citoyens aujourd'hui, je ne peux pas, le plus n'est plus possible. Par contre, je peux maintenir un niveau de service et un niveau de qualité de service.
Ce qui est déjà un succès.
Ce qui est déjà difficile à réaliser et qui est un succès parce qu'on y arrive. Mais je ne peux pas en offrir plus dans l'état actuel des choses, des finances. Encore une fois, si je veux maîtriser mon fonctionnement, si je veux continuer à investir pour l'avenir, pour Dreux, tout en maîtrisant l'endettement de la ville.
On a eu cette conversation d'ailleurs à un moment où je t'avais retrouvé, car tu inaugurais une école au Rochelle, je crois, qui venait d'être complètement rénovée.
Dans le cadre de la rénovation urbaine.
Et tu m'avais parlé de ce problème d'activité périscolaire qui coûtait très cher à ta ville et aussi aux autres, ça c'est sûr. Est-ce que toutes les communes ont pu le mettre en œuvre ou bien est-ce que ça reste très controversé comme système ?
À ma connaissance, toutes les communes ont été obligées de le faire. Alors elles l'ont fait plus ou moins. Il y a des communes quelquefois qui finalement, par rapport au rythme scolaire et dans ce qu'on appelle les activités périscolaires, c'est plutôt de la garderie. Parce que il n'y a pas seulement la volonté et les moyens financiers de la commune. Il y a aussi la capacité à trouver des gens qui veulent bien travailler à temps très partiel. Travailler 2 heures après les temps scolaires, il faut trouver les gens compétents. Parce que si c'est pour avoir des gens, encore une fois, souvent, si c'est pour faire de la garderie, ça n'a aucun intérêt.
J'ai vu dans le « N'oubliez pas les paroles » de la semaine dernière, je crois, un jeune homme qui disait qu'il avait fait 3h45 d'accompagnement périscolaire de cours de chant. Il a dit à Nagui, je l'ai fait chanter, ma foi. Et Nagui, évidemment, dit, mais c'est un peu de la garderie. Et c'est le problème, évidemment. C'est très, très compliqué.
Si on voulait, alors moi, je suis sceptique sur cette... D'ailleurs, le ministre qui l'a imposé, il a fait un court passage pour imposer des choses sans discussion, d'une manière autoritaire. Il est retourné en député européen, c'était plus confortable. Il nous a laissé sur les bras cette opération des rythmes scolaires, qui est loin d'être prouvée comme étant... Moi, si c'était pour le bien des enfants et que ce soit vraiment... que la réussite scolaire soit généralisée au travers de ça, je veux bien. Rien n'est prouvé. Tout le monde est à peu près mécontent. Les enfants sont fatigués. Les parents sont pas contents, les enseignants sont plus que sceptiques, certains revendiquent aussi. Donc personne, les évaluations sont pas faites. Et donc aujourd'hui, et ça a un coût, est-ce que tout ça, s'il y avait des résultats positifs, et si dans le temps on enregistre des résultats positifs, je changerais peut-être d'avis. Pour l'instant, je trouve que ce sont des choses comme ça, qui sont faites selon l'idée d'un ministre qui passe, quelquefois très vite, comme celui-là, et qui laisse derrière lui des charges importantes.
Au bout de 20 années de mandat, quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier? D'ailleurs, il y en a encore en train, des réalisations.
Oui, ben, bien sûr, il faut continuer.
Bon, Des succès, voilà.
Je vais dire, ben, alors, c'est pas une réponse, mais je suis fier de tout, tout ce qu'on a pu faire. Mais bon, d'une manière peut-être plus générale, je peux dire que nous avions, pour notre attractivité, la nécessité de rendre un centre-ville agréable. L'image que l'on se fait de Dreux est au travers de son centre. Et donc, nous avons réhabilité le centre, donné les moyens de stationnement facile.
Est-ce qu'il y a toujours les 2 heures de parking gratuit dans le centre-ville de Dreux ?
Il y aura toujours, en tous les cas, tant que j'y serai, il y aura toujours, parce que je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire. Le reproche qu'on nous faisait par rapport au commerce de périphérie, c'est de dire, eux, les consommateurs peuvent utiliser les commerces de périphérie sans payer de parking. Il m'est venu à l'idée, après avoir étudié les statistiques du temps passé dans les parkings, etc., c'était moins de 2 heures, et de façon à ce que ce ne soit pas non plus le garage des habitants du centre-ville, on a mis 2 heures gratuites, qui suffit assez largement d'ailleurs à faire ses courses. Et puis, ce n'est pas dramatique, si on s'attarde dans un commerce et que l'on doit payer l'heure supplémentaire, à raison de 50 centimes, c'est très très accessible. Donc je crois que ça, c'est un atout pour nos commerçants du centre-ville. Alors voilà, il reste beaucoup de choses à faire, hein, et notamment à redynamiser le commerce du centre-ville. Ça, c'est quelque chose qui actuellement nous préoccupe. D'ailleurs, je viens de recruter un manager commerce, hein, qui va prendre ses fonctions à partir du 1er juin, qui sera mutualisé, partagé entre l'agglomération et la ville, et notamment pour être tout auprès des commerçants pour redynamiser ce centre-ville.
Il prendra contact avec les différents commerçants, il leur proposera des solutions pour...
Il sera à leur côté tous les jours, seront évoqués les problèmes, et les problèmes sont nombreux et très divers, des problèmes de surface disponible, des problèmes de coûts de loyer, des problèmes d'enseigne, etc. Il va être à leur côté, les problèmes d'animation commerciale, il va être à leur côté, les problèmes d'investissement, de trouver les financements pour leur développement, leur investissement. Un manager commercial, il sera là pour être à leur côté, leur faciliter les choses.
Est-ce qu'il va résoudre aussi pour les commerçants le problème des zones piétonnes où les clients évidemment se garent dans les parkings avec les 2 heures, mais pour ce qui est des livraisons, certains se plaignent, et leurs propres véhicules également. Je pensais à un revendeur de télévision, technicien de la rue d'Orfeuil, qui me disait qu'il était régulièrement aligné avec sa
normalement,
voiture.
Normalement, je dis normalement. Hein, moi, je ne suis pas tous les jours à savoir si telle voiture était bien dans son droit en fonction des règlements qu'on a mis en place ou pas. Bon, normalement, tout est fait pour que, d'une part, les riverains puissent accéder à leur logement, voire décharger leurs courses, des choses comme ça. Ils ont des cartes d'entrée. Normalement, tout est fait pour ça. Les commerçants peuvent recevoir leur livraison par des entrées contrôlées. On a un centre, une partie centrale avec la vidéoprotection qui contrôle tout ça, l'accès au centre-ville. Normalement, ça doit fonctionner. Hein. Alors, s'il y a des dysfonctionnements, et je veux bien admettre qu'il y en a toujours, et des améliorations à trouver, à chaque fois qu'un dysfonctionnement nous est signalé, ben, on se penche dessus et on essaie de trouver la solution. Je voudrais revenir juste sur un point pour montrer que j'ai eu le souci aussi dans l'évolution de la ville d'un équilibre. J'ai parlé du centre-ville qui doit être l'image qui soit reflétée à l'extérieur d'une ville dynamique, d'une ville qui est belle, où on se plaît à s'y promener, à y être. Mais simultanément et en même temps, j'ai souhaité vraiment changer aussi nos quartiers. Et j'ai fait ces 10 dernières années des travaux très importants dans tous les quartiers sud de Dreux, 240 millions d'euros de travaux qui m'ont permis quasiment de reconstruire complètement ces quartiers-là, de redonner à ces habitants de quartier un cadre de vie. Je ne voulais pas que tous les efforts financiers, toute la politique déployée soit uniquement sur un centre-ville qui aurait eu le privilège d'être les seuls à devoir investir la commune sur ces seuls centre-ville. J'ai voulu en même temps améliorer les conditions de vie des quartiers, et tous les quartiers sud de Dreux sont traités aujourd'hui. Certes, on n'a pas au travers travers de la rénovation urbaine, résolu tous les problèmes, mais au moins on a redonné dans ces quartiers, la délinquance a considérablement diminué dans ces quartiers-là. Je n'ai pas forcément redonné ou pu redonner automatiquement des emplois. En tous les cas, il y a un cadre de vie, on y vit mieux. J'y vais très souvent et les gens me font état de cette amélioration. D'ailleurs, dans ce mandat-là, et je serai à Paris dès la semaine prochaine pour traiter avec l'Agence nationale de rénovation urbaine les quartiers nord de Dreux et de Vernouillet, mais les quartiers nord de Dreux, notamment les BAT, qui seront traités dans ce cadre-là et dans ce mandat-là. Les travaux sont un peu de moindre importance, puisque là, il s'agira autour d'une centaine de millions d'euros, quand même, pour repenser, revoir, réurbaniser, redonner un cadre de vie aussi au quartier des Battes. Voilà. Donc j'ai souhaité, quand tu me posais la question, de dire ben, quelles sont les meilleures choses que j'ai pu faire, ou ce dont je pourrais être le plus fier, c'est d'avoir changé globalement l'image de la ville, et pas seulement dans son centre.
L'Agence nationale de rénovation urbaine que tu as dirigée, tu es toujours partie prenante dans cette association ?
Non, parce que j'ai présidé cette agence. Il y a des règles au niveau national pour ces grandes agences. J'ai présidé le conseil d'administration de cette agence pendant 6 ans. C'était une grosse mécanique puisque j'ai supervisé en même temps 43 milliards de travaux sur la France et l'Outre-mer. J'avais autour de la table du conseil d'administration 11 ministères qui étaient partie prenante. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire, très enrichissante. Je suis allé énormément sur le terrain. En 6 ans, j'ai dû visiter une bonne soixantaine de villes. C'est-à-dire que j'étais tous les mois sur le terrain, en métropole et en Outre-mer. Donc j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a beaucoup enrichi sur la manière de traiter les quartiers. Les quartiers qui étaient à repenser après avoir fait face aux besoins quantitatifs d'une certaine époque, de l'époque de l'industrialisation, l'époque d'après-guerre, des années 60, nous rentrions dans une... après avoir connu les limites de l'urbanisation de ces quartiers-là et de la densification.
À outrance.
Il fallait passer à outrance, certainement, et beaucoup trop, une densification beaucoup trop importante. Il fallait passer à une ère qualitative. Et c'est ce que permettait, avec les aides d'État, des régions, des départements, etc., et des communes, qui consacrent beaucoup d'argent, on passait à l'ère qualitative. Je parlais du cadre de vie tout à l'heure. C'est quand même très important, quelle que soit sa condition, qu'on puisse vivre, se plaire et vivre correctement dans un cadre de vie. C'est sa vie aussi. C'est pas que...
Jean-Louis Borloo était très impliqué dans ses projets, d'ailleurs.
Jean-Louis Borloo, je me suis trouvé, je me rappelle, avec lui, c'est une anecdote, mais je me plais finalement à la raconter. Entre 1997 et 2002, nous étions dans l'opposition. Il était maire de Valenciennes, j'étais maire d'Audreux. Nous étions côte à côte dans l'hémicycle et on parlait beaucoup de cette problématique des quartiers dits difficiles à cette époque-là. Et Jean-Louis, ignorant qu'il aurait été ministre de la ville quelque temps après, on parlait de cette manière. Il avait énormément d'idées. C'est un garçon qui, en permanence, regorge d'idées. Il en a une toutes les heures. Quelquefois, ça lui est reproché par ses collègues ministres. Mais il a une idée toutes les heures. En tous les cas, de très bonnes idées. Et c'était un coup de maître, un coup de génie, que d'avoir imaginé, dès qu'il a été ministre, ce concept de rénovation urbaine au travers, géré par une agence nationale, qu'il avait créé lui-même.
Il est maintenant très impliqué dans son projet d'électrification de l'Afrique.
Oui, j'ai gardé quelques contacts amicaux avec lui. Je sais qu'il est impliqué dans ce domaine. Il a connu des problèmes de santé qui lui ont fait très peur et qui l'a amené à prendre un peu de recul et à s'écarter de la vie politique. Mais comme c'est un homme très actif,
il ne peut pas rester sans projet.
Il ne peut pas rester sans rien faire et sans projet. Le voilà relancé en dehors de la politique quelque chose de très important. L'électrification à l'Afrique, c'est quand même quelque chose de très important. Mais il fait du Borloo et c'est bien.
Alors tu as commencé l'année avec le projet Proximum particulièrement, je dirais, parce que j'ai essayé de te suivre dans tous tes vœux, mais tu les as donnés, les vœux. Je ne sais pas si les Drouais vont avoir une bonne année, mais là...
On a fait la proximité à la ville de Dreux, c'est quelque chose. C'est quelque chose que l'on a traité il y a plus de 10 ans, puisque les concepts Proximum avec les mairies de quartier avaient plus de 10 ans. Et puis, comme dans tout projet, hein, tout concept, tout projet, ça connaît à un moment donné ses limites et il faut redonner un élan à une politique. C'est ce que j'ai voulu faire avec la nouvelle équipe, en abandonnant l'idée que c'était des mairies de quartier, avec une organisation quasiment... une organisation
d'arrondissement,
la
peut-être,
même,
non,
ouais, un peu les arrondissements à Paris, enfin bon, c'est un peu exagéré de dire ça entre eux, mais où il y avait une certaine autonomie avec des budgets, etc. Ceci a connu ses limites et nous avons pensé qu'il fallait redonner un nouvel élan à la proximité en s'organisant différemment. Et d'ailleurs, l'État exigeait au travers de les contrats de ville et les plans de cohésion sociale que ce ne soit plus les élus qui soient les éléments moteurs des quartiers, mais que ce soit les conseils citoyens. La gauche aime bien ça, la citoyenneté, les conseils citoyens. Les habitants eux-mêmes qui, dans leur esprit, pouvaient tout prendre en charge, etc. Tu vas voir qu'avec les dispositions que je viens de prendre en ce tout début d'année, c'était un peu une illusion d'intellectuels parisiens que de penser que ça pouvait fonctionner que comme ça. En tous les cas, j'ai constitué les conseils citoyens, les comités de quartier. Ça a été facile pour moi.
Facile aussi de trouver des gens impliqués qui soient capables, ouais, et surtout qui aient le désir de s'impliquer parce que c'est très, très, oui, prenant. Non, ce genre de choses, si on le fait à fond, non ?
Tu sais ce qui m'avait fait sourire, enfin sourire un peu difficilement, c'était à l'origine, ces intellectuels parisiens souhaitaient que ce soit des gens tirés au sort du quartier. Comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant tirer
comme
au
pour
sort
les jurés,
un voyou de quartier qui serait ou des gens qui ne seraient là que pour s'opposer à notre municipalité? Moi, je préférais la cooptation des gens de quartier qui veulent, qui ont de la disponibilité. C'est comme ça que fonctionnait Proximum, qui ont de la disponibilité, qui veulent tirer dans le même sens. Les débats avec une majorité, une opposition, c'est le conseil municipal. Ça ne peut pas être reporté dans chacun des quartiers. Et donc, moi, j'étais en désaccord sur cette manière de faire. On a trouvé un bon compromis qui nous a permis, à partir des bases que l'on avait, de compléter nos comités de quartier. Et aujourd'hui, nos comités Proximum, on a rejumelé 2, il y en avait 7, il n'y en a plus que 6. Bref, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais aujourd'hui, nos comités Proximum sont en fonctionnement. Ce ne sont plus des maisons de quartier, ce ne sont plus des mairies de quartier, mais des maisons Proximum que l'on a mis dans 6 quartiers, y compris celui du centre-ville. Et puis tout ça aurait très bien fonctionné si les habitants, finalement c'est toujours eux qui ont raison, nous faisaient remarquer que avec cette organisation-là, très bizarrement, on ne voyait plus les élus. Parce que l'État nous avait imposé de mettre des comités de proximité sans élus, et sans élus, les élus étaient occupés à autre chose, dans les thématiques et les délégations qu'il leur avait données, et ils n'étaient plus sur le terrain. Il faut aussi être proche du citoyen, et moi je tiens d'avoir cette politique proche du citoyen. Et donc, écoutant et entendant le message des habitants, qui me disaient les élus on les voit plus assez... À côté des comités Proximum, j'ai mis des élus qui sont des référents de quartier. Ils sont 4, 5 ou 6 par quartier. Et ça y est, ils ont réinvesti le terrain. Et puis j'ai dit, chaque année, j'ai eu l'idée de choisir un thème qui serait le thème de l'année où on ferait des efforts particuliers sur ce thème-là dans l'année. Et j'ai choisi pour 2016 la proximité. Dans mon esprit, ça n'est jamais que le discours, c'est bien, les promesses, c'est bien. Dieu sait si on sait ce que c'est actuellement avec l'État. Mais moi, ce que je veux, c'est des actes.
Il faut en plus que les promesses soient tenues.
Qu'elles soient tenues et puis qu'elles se transforment en actes visibles. Et donc, pour souhaitant cette année de la proximité, c'est-à-dire de se rapprocher le plus possible du citoyen, d'être à son écoute, de répondre à ses demandes, de l'informer, etc., j'ai donné l'exemple en allant dans chacun des quartiers. C'est vrai que c'est lourd, mais je ne regrette pas, parce que j'ai eu vraiment d'abord un accueil extraordinaire, des gens qui vraiment...
On a vu ça, oui.
Sont venus très heureux qu'on aille à leur rencontre, hein, plutôt que... C'est la première fois que des vœux se faisaient avec les habitants dans les quartiers. Voilà, et donc ils étaient... c'était plutôt positif. Je leur ai promis d'ailleurs de revenir, pas à l'occasion des vœux, et dans le deuxième semestre de 2016, là aussi, j'irai, mais cette fois en réunion de travail, où les habitants qui voudront bien venir, je visiterai le quartier dans l'après-midi, et je ferai les 6 quartiers comme ça, visite du quartier sur le terrain pour voir un certain nombre de choses, aller à la rencontre des habitants qui ne pourraient pas se déplacer à la réunion publique que je tiendrai chaque soir dans chacun des quartiers quand je les visiterai. Voilà, donc la proximité, c'est aussi le maire qui doit donner l'exemple et qui doit l'être. Et puis c'est aussi mes élus référents qui, au quotidien, sont aux côtés des Drouais dans chacun des quartiers. Les choses sont difficiles aujourd'hui, hein, et les gens sont dans des difficultés, pas seulement sociales. Et on le ressent surtout, au nombre de divorces, au nombre de problèmes que l'on rencontre ici ou là. Il y a des difficultés qui sont liées à la conjoncture, qui sont liées à un tas de choses. C'est le moment ou jamais que les élus soient plus que jamais aux côtés de ces habitants.
Nous nous quittons, chers auditeurs, pour aujourd'hui, mais monsieur le président, monsieur le maire, cher Gérard, nous nous reverrons bientôt, bien sûr, parce que nous allons faire d'autres émissions ensemble. Les sujets sont multiples, je suis sûre que ça va passionner nos auditeurs. En tout cas, merci d'être venu dans nos studios d'Urocas de Radio Grand Ciel. Émilie Glory faisait la réalisation et l'enregistrement de ces émissions. À bientôt, Gérard. Au revoir.
Merci.